Rodolphe Bringer, le capitaine Lambounigue. Quand on apprit au conseil municipal de Mondragon que Castagnol venait de mourir à Tanger et qu'il léguait son immense fortune à sa ville natale, mais qu'il fallait qu'un conseiller municipal partît pour le Maroc afin d'entrer en possession de cet héritage inattendu, il n'y eut qu'une voix pour désigner le capitaine Lambounigue. D'ailleurs, ne semblait-il pas tout indiqué pour faire ce voyage? D'abord, il avait des loisirs, étant rentier parfaitement inoccupé. Puis, il était célibataire. Enfin, c'était un vieux loup de mer, ayant pourtant, pendant plus de 30 ans, roulé sa bosse dans tous les pays du monde. Et ce bout de traversée ne pouvait être pour l'effrayer. Il n'y avait qu'à voir le capitaine Lambounigue errer dans Mondragon pour se convaincre que c'était là un marin endurci. Il y avait son costume, tout d'abord, dont il n'avait jamais pu se défaire, ses pantalons larges du bas, ses vestons bleus à boutons d'or où une encre était gravée, sa casquette où une autre encre était brodée en or également. Mais sans ce costume symptomatique, sa démarche balancée, son éternel langage, étaient là pour démontrer jusqu'à l'évidence que le capitaine avait plus souvent foulé le pont d'un navire que le tranquille parquet des vaches. Mais si on l'entendait parler, alors le doute n'était plus possible, car le capitaine ne s'exprimait qu'en parfait maturin, et son discours s'émaillait de tous les termes de marine en cours. L'histoire du capitaine Lambounigue était simple. Il la racontait à tout venant, et les plus petits galopins de Mondragon la connaissaient sur le bout du doigt. Né dans un port de mer, d'un père capitaine au long cours, du plus loin qu'il pouvait se souvenir, il se voyait sur le pont d'un navire. Il avait fait toutes les campagnes, navigué sur toutes les mers, visité toutes les côtes, essuyé toutes les tempêtes, échappé à tous les naufrages, et il avait toujours espéré mourir devant la mer où il était né. Si une satanée maladie ne s'était déclarée en lui, un mal inconnu mais terrible, la salingite. Oui, le capitaine était salé, tel un vulgaire morceau de porc français, à force d'avoir respiré l'air marin, et les médecins les plus considérables consultés l'avaient assuré qu'il n'avait pas 3 mois à vivre s'il ne parvenait à se dessaler un tout petit peu. Et voilà pourquoi il était venu s'installer à Mondragon, loin de la mer, où il espérait que le bon soleil, le mistral et cette bonne odeur de thym et de marjolaine qui s'exhale des montagnettes arriveraient enfin à le dessaler et par conséquent à lui rendre la vie. Il avait acheté un petit pavillon sur le bord du Lèze qu'il avait frété et gréé comme un navire, et sa joie fut sans limite le jour où il prit à son service son fidèle Figaou. Figaou était la caricature du capitaine Lambounigue. Né de Nahon Dragon, il en était parti vers l'âge de 12 ans. Il n'y était revenu que vers la quarantaine, après un passé des plus mystérieux. En arrivant au pays natal, où tous les siens s'étaient morts, sans sous ni maille et incapables d'exercer aucun métier, il s'était présenté au capitaine Lambounigue, s'offrant à lui servir de domestique. Figaou était fainéant comme un loir, menteur comme un charlatan, chapardeur comme un zéphyr. Figaou, en un mot, avait tous les défauts. Mais le bon capitaine le prit à son service avec délire, car Figaou était un vieux marin ayant, comme son maître, visité les 5 ou 6 parties du monde. Figaou portait la barreuse et le béret. Figaou tanguait en marchant. Figaou chiquait. Figaou parlait le plus fin maturin. Et il n'en fallait pas plus au capitaine pour que Figaou passât à ses yeux pour la perle des serviteurs. Et maintenant, on comprendra facilement que le conseil municipal de Mondragon n'eut pas hésité une minute a chargé le capitaine Lambounding de la délicate mission d'aller à Tanger toucher le fabuleux héritage du défunt Castagnol. À vrai dire, le capitaine commença par faire une fort vilaine grimace. Ce voyage n'était pas pour lui plaire. Il allégua sa santé. Son traitement commençait à opérer. Il se sentait de jour en jour plus dessalé. Son mal n'empirerait-il pas si tout à coup il se mettait à respirer à nouveau le fatal air marin? Mais on lui objecta que la traversée était si courte que cela ne valait pas la peine d'en parler, qu'on lui donnerait d'ailleurs en partant une provision de frigoule dont il pourrait respirer le parfum tout le temps que durerait son voyage en mer. Et puis, il n'y avait que lui qui pouvait partir, car tout le conseil était sujet au mal de mer. Ce dont lui ne serait pas incommodé. Enfin, il connaissait Tanger et le Maroc, et seul il saurait se débrouiller et parler comme il fallait à tous ses tueurs. « Que vouliez-vous ? » que répondit le capitaine Lambounding. Il accepta, mais sans enthousiasme, et le soir rentrait chez lui. « 1 000 000 000 de cambuses, eh bien, voilà paré !» Et s'affaissant dans un fauteuil, il tomba dans la plus noire des mélancolies. Ah, il tritura des idées fort sombres, le pauvre capitaine Lambounding. Décidément, ce voyage n'était point pour lui plaire. De longues heures, il demeura songeant dans son fauteuil. Il fallut que ce bon Figaro vint l'avertir que le souper était servi. Mais tout de suite, Figaro fut frappé par l'altération des traits de son maître. Et familièrement, il lui en demanda la raison. « La raison, mon pauvre Figaro, c'est qu'il va falloir appareiller, mon ami. »« Appareiller ? Oui, pour Tanger, et cela en plus tôt. »« Pour Tanger ?» répéta Figaro, dont la mine s'allongea d'une aune. « Mais Tanger, c'est là-bas, de l'autre côté de la mer. »« Tu l'as dit, de l'autre côté de la mer. » Aussi, d'ici 2 ou 3 jours, nous voguerons sur la Méditerranée. Figaro ne répondit rien, mais il était tout blême. À lui non plus, le vieux loup de mer, qui avait navigué sur toutes les mers du monde, ce voyage ne semblait pas plaire. Oh, nous étions si tranquilles, fit-il. Mais oui, que veux-tu ? Crois-tu que cela me réjouit aussi ? Mais quoi ? Il nous faut partir. Et ils partirent 3 jours après, la mort dans l'âme. À la vérité, ils se conduisirent gaillardement à la gare où le conseil municipal tout entier était à les accompagner. Et même le bon capitaine serra la main du chef de gare avec une telle chaleur que celui-ci ne put s'empêcher de dire « Oh, c'est un lapin qui n'a pas froid aux yeux !» Mais quand ils furent seuls dans le compartiment, penché à la portière, le pauvre Figaro regardait s'éloigner la collinette de Mondragon, son vieux château ruiné et cette sombre tour du Croupatas, comme si jamais, plus de sa vie, il ne devait les revoir. Le capitaine, enfoncé dans son coin, avait sa figure des mauvais jours et s'enfermait dans un silence douloureux, lui qui ne pouvait d'ordinaire demeurer plus de 30 secondes sans parler. Quand, à un tournant de la voie ferrée, la tour du Croupatas eut disparu. Figaro s'assit à l'autre bout du compartiment et regarda son maître. « Comme il est calme et fort » murmura-t-il dans un profond soupir. « Oh, on voit bien que c'est un rude navigateur !» Et ils se turent, chacun dans ses lugubres pensées. Mais le train s'arrêta et un employé annonça « Tarascon !» Alors le capitaine se leva, comme mu par un ressort, et remit à Figaro sa valise. « Mais nous ne sommes pas à Marseille, dit celui-ci. Nous descendons ici, pas moins. Mais comment, pour aller à Tanger ? Ne t'occupe pas de ça, répliqua Lambounding avec un sourire confus. Figaro suivit son maître. Avec lui, il s'installa dans un express en partance, et sans essayer de comprendre, il vit défiler successivement des gares comme Nîmes, Montpellier, Celles, Béziers, Narbonne, Perpignan. Parbleu, il comprenait, mais Figaro n'était pas lui un imbécile, malgré tous ses défauts. Au lieu de se rendre à Tanger par la voie de mer, le capitaine s'y dirigeait par la voie de terre, sans doute à cause de la salangite dont il souffrait. Et au fur et à mesure qu'on approchait de la frontière et que par conséquent l'on s'éloignait de Marseille, l'âme de Figaro reprenait ses coutumières gaietés. « Mais il va bien falloir traverser, » dit-il à son maître. « Redame, à moins d'aborder à ce tas à la nage. » Sur le port, le capitaine eut au fait de s'entendre avec un pêcheur d'anchois qui, sur son bâtiment, consentit, moyennant une assez forte rétribution, à leur faire traverser le détroit de Gibraltar, qui n'a guère que 15 à 16 kilomètres. Mais Lambouning commit une faute, celle de payer cet honorable pêcheur d'anchois d'avance, et une bonne heure avant qu'il n'appareilla. C'était peu une heure, mais elle suffit pour que le pêcheur d'anchois et ses deux hommes d'équipage pénétrassent dans une taverne où ils se grisèrent abominablement, de telle sorte qu'à peine sortis du port, l'équipage tout entier roulait sur le pont et s'endormait comme un seul homme. Le capitaine Lambouning, ce hardi marin, commençait déjà à ressentir les premiers effets d'un affreux mal de mer. Mais la vue de son équipage, incapable de la moindre manœuvre, le guérit tout à fait. « Mais ils sont gris, Figaro, hélas, comme des rats de soute. Mais qu'allons-nous devenir ?»« Ben, il ne reste plus qu'à prendre le commandement, capitaine. »« Cela vous connaît, » répliqua Figaro, entre deux hoquets, précurseur d'une tempête gastrique. Mais Lambouning pâlit. À ce moment, le vent fraîchit et le frêle bateau de pêche se mit à tanguer, net, et à rouler d'étranges et inquiétudes façons. Le capitaine s'approcha de son valet et d'une voix basse, d'une voix confuse. « Écoute, Figaro, c'est terrible ce que je vais te dire. Je ne suis pas plus capitaine que le grand Turc. Toute ma vie, j'ai été qu'un brave fonctionnaire, chef de bureau au ministère de l'Agriculture. Et par malheur, j'ai occupé mes trop nombreux loisirs à livrer des ressentis de voyage. C'est ce qui m'a conduit à jouer ce rôle de vieux marin. Tu m'en veux pas? Oh, Dieu m'est témoin que sans le danger que nous courons, jamais je ne t'aurais fait pareille révélation. Tu comprends maintenant pourquoi je ne suis pas embarqué à Marseille? Écoute, Figaro, j'ai jamais pu, habitant Paris, prendre le bateau mouche, tant je suis sujet au mal de mer. Aussi compte pas sur moi. Toi, tu t'y connais. Comment je t'obéirai? Hélas, capitaine, moi aussi je vous ai menti. Que dis-tu? Ben, toute ma vie, j'ai été que laveur de bouteilles dans une pharmacie de la rue Réaumur. Et c'est aujourd'hui que je vois la mer pour la première fois. Et pourtant, pour entrer à votre service, je me suis donné une âme et un langage de marin. Mais je suis pas plus marin qu'un soldat de plomb. Alors nous sommes perdus, clama Lambouning. Heureusement, le vent poussa vers la côte cette embarcation désemparée. Des pêcheurs y recueillirent trois hommes ivres morts et deux autres qui ne valaient guère mieux. Revenus de leur émoi, Lambouning et Figaro purent regagner Tanger. Mais jamais ni l'un ni l'autre ne voulut revenir à Montragon, par peur de la traversée. La petite maison du bord du Lez fut vendue et le capitaine Lambouning s'installa au Maroc, où il vit le plus heureux du monde, plus capitaine que jamais. Car si cette aventure l'a guéri des voyages, elle n'a point corrigé sa manie. Et lui aussi, bien que Figaro continuent à se donner mutuellement l'illusion qu'ils sont de hardis navigateurs ayant fréquenté toutes les mers du monde. Rodolphe Bringer.